Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Madelin. Je suis donc historienne. Je m'intéresse à des questions du contemporain, des relations entre la France et les Balkans. Et je suis également éditrice chargée des coopérations internationales aux éditions de l'UHESS. Donc, ce séminaire, pour moi, c'est vraiment être sur les deux registres de la recherche et de la pratique de l'édition des traductions. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés avec Francisca au départ, dans l'idée de penser en même temps la recherche et l'édition. Et ensuite, on a inclus Marc avec nous.
Merci. Moi, comme je l'ai dit, je m'appelle Marc Hemmes, je suis historien de la région du Moyen-Orient, d'une aire culturelle centrée sur le Moyen-Orient au sens d'un espace gouverné par l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle. Et j'ai travaillé notamment sur cette période tardive de l'Empire ottoman du XVIIIe. Enfin, j'ai travaillé et je travaille sur les archives relatives à l'administration et aux pratiques de gouvernement ottomane entre le XVIIIe et le XXe siècle, avec une partie de mon projet qui porte sur certaines formes de traduction au sein de l'administration, pas seulement la diplomatie, mais notamment la diplomatie ottomane au XIXe et XXe siècle.
Bonjour, je m'appelle Francisca Humphreys, je suis maître de langue à l'EHESS, plus précisément sur un poste du DAAD, de l'office, je ne sais jamais comment c'est en français, mais en tout cas l'organisme allemand qui organise les échanges universitaires. Ce qui veut dire que ma mission ici, c'est à la fois d'apporter l'enseignement en langue allemande ici à l'EHESS et en même temps apporter aussi les méthodes universitaires ou de recherche qui se font en Allemagne. C'est un peu la mission. Mais en même temps, j'ai traduit des livres, je m'intéresse beaucoup pour la traduction. J'ai travaillé chez un éditeur indépendant avant qui s'appelle Diaphanes, que vous ne connaissez probablement pas. Donc c'est pour cela que j'ai fait de la traduction aussi une partie de ma recherche en développant plusieurs programmes ou initiatives autour de la traduction et sa place en sciences humaines et sciences sociales dont on parlera tout à l'heure. Et voilà, avec Anne et par le fait que mon poste est à la fois associé donc à l'EHESS et aux éditions de la MSH qui nous accueillent ici, mais qu'on remercie donc de nous accueillir ici dans la bibliothèque. Et les bureaux là à côté sont les bureaux des éditions de la MSH pour lesquels je dirige la collection Bibliothèque allemande, qui ont fait que nous avons pu faire cette synergie entre édition et recherche.
Alors, on s'amuse avec nos fauteuils là, mais le propos de cette séance, c'est d'ouvrir un peu à la discussion par rapport à un programme qui, comme chaque année, présente un degré élevé et assumé de d'éclectisme par rapport justement à l'hétérogénéité des approches qui sont plus ou moins sous-jacentes au projet du séminaire. C'est-à-dire des approches qui peuvent relever de la pratique éditoriale, de l'organisation des relations entre savoirs, entre disciplines, entre champs d'études, au plan très concret de certaines institutions ou de certains organismes publics, parapublics, et puis des maisons d'édition qui elles-mêmes relèvent soit de l'argent public, soit de financement privé. Et puis d'autres niveaux qui sont peut-être plus dans ce qu'on appelle commodément la théorie, c'est-à-dire une forme de réflexion sur les principes qui régissent les liens des savoirs entre eux en tant que savoir, pas en tant qu'organisation humaine, mais aussi en tant que forme de pensée organisée suivant un certain nombre de logiques qui ne sont pas seulement institutionnelles, pas seulement pratiques, aussi ça, mais également, disons, théoriques. On avait déjà un peu dans mon souvenir, lancé l'année dernière des éléments introductifs du séminaire en distinguant un peu ces niveaux. Disons que aujourd'hui, on a essayé d'organiser cette introduction en posant trois questions successives et en y répondant chacune avec des éléments de notre cru. Et ces trois questions, donc, pour les poser d'emblée, sont les suivantes. Quelles sont les conditions pour qu'une traduction soit lancée, pour qu'une traduction donc, ait lieu finalement, mais même qu'un projet de traduction ait lieu? La deuxième question, c'est comment penser la traduction à partir de la notion de la pratique, du point de vue d'une approche qu'on pourrait dire pragmatique. Quels sont les éléments dont on veut parler à ce moment-là? Qu'est-ce que ça implique d'avoir cette approche pragmatique? Et puis une troisième question, plus du domaine de la prospective, presque, qui est de poser la question du rapport entre les traductions, les approches de la traduction et l'avenir des sciences humaines et sociales, ou l'avenir des humanités et des sciences sociales. On peut aussi la poser d'une manière différente, qui ne veut pas dire la même chose, mais c'est proche, qui est de dire quel avenir pour les traductions en sciences humaines et sociales. Mais en fait, le jeu est double, c'est quel avenir pour les sciences humaines et sociales avec plus ou moins de traductions dedans comme élément constitutif. Et puis, il y a la question, quel avenir pour les traductions elles-mêmes dans la vie des sciences humaines et sociales. Donc, bon, c'est la même question posée un peu différemment, disons. Alors, on m'a confié le micro en premier parce que les choses s'organisent un peu comme ça dans notre propos, mais voyez les réponses qu'on va apporter comme un peu un jeu de je ne sais quoi, de cube, vous voyez, qui tourne, et puis ou des approches éventuellement là aussi éclectiques ou hétérogènes se combinent et peuvent se recombiner différemment quand peut-être vous relirez vos notes, ça vous semblera, ou quand vous réécouterez l'enregistrement, vous aurez peut-être envie de faire un montage et de mettre les choses dans un ordre différent. Ça, c'est pas conçu sur un mode dissertatif avec point 1A, point 1B, point 1C, avec un ordre logique parfait. Donc c'est un peu, pour le dire autrement, par hasard que je suis en train de vous parler là en premier. Disons que donc, la question d'abord des conditions du lancement d'une traduction, c'est-à-dire au sens, dans quelles circonstances une traduction advient et en quoi ces circonstances sont importantes. Par rapport aux éléments auxquels ma pratique de recherche et d'écriture scientifique m'amène à penser, donc au niveau de ce qu'on pourrait appeler les circonstances scientifiques, c'est-à-dire de la définition des objets de savoir et de comment ils se situent les uns par rapport aux autres, en sciences historiques, en histoire ou en sciences sociales, on est fortement incité par la pratique à s'interroger sur le changement social, la transformation sociale, l'évolution culturelle, la différenciation, l'homogénéisation culturelle, par exemple. Vous avez aujourd'hui toute la littérature sur la globalisation par différence avec la mondialisation, qui pose la question de l'indifférenciation ou de la redifférenciation des formes sociales et des relations entre cultures. Et donc, par rapport à ça, on peut définir une situation de réflexion scientifique par la question du rôle que joue la traduction ou les traductions dans le changement social et culturel. Donc, c'est au niveau des objets qu'on étudie, comment on situe la traduction par rapport à des dynamiques qu'on veut étudier. La traduction comme configuration historique, si vous voulez, comme élément d'une configuration historique. Alors là, pour ne donner que deux exemples de ce à quoi on peut penser, des exemples qui me seront plus familiers, mais vous penserez à d'autres choses, on peut par exemple parler d'une circonstance impériale, d'une configuration impériale de la traduction, c'est-à-dire d'imaginer, ça fait référence à des séances de l'an dernier pour ceux ou celles parmi vous qui étaient là, le problème de l'articulation entre une forme de gouvernement et d'organisation sociale qu'on peut qualifier d'impériale, et la pratique de la traduction comme chose à étudier pour un historien ou pour autre chose que quelqu'un d'autre qu'un historien. Par empire, on désignerait une certaine gestion de la diversité, à la fois linguistique et éventuellement culturelle ou sociale. Une organisation, voilà, c'est un peu, il y a un corpus énorme d'écrits sur l'empire, aussi bien en sciences politiques qu'en histoire ou en anthropologie. Mais en très très schématique, on pourrait dire que l'empire est une certaine forme d'accommodement de la diversité par opposition, implicitement c'est ça qui s'impose, par opposition à une forme qui repose sur l'État-nation, qui est pensée à partir du modèle de l'État-nation, qui implique une plus grande politique d'homogénéisation des formats d'expression, des langues qu'on utilise dans la sphère publique, et ainsi de suite. Donc l'Empire, c'est un accommodement, enfin, on s'accommode de la diversité et de la... Et éventuellement même, on laisse la différenciation se développer sans que ça pose spécialement problème au gouvernement. Et donc, qui dit situation impériale, dit omniprésence de traduction à des niveaux qui sont de toutes sortes, des niveaux qui sont profanes comme des niveaux qui sont professionnels, des niveaux qui sont techniques et spécialisés, comme des niveaux qui relèvent de la pratique idiomatique courante sans souci de définir une compétence technique autour de cette pratique. Voilà, donc il me semble qu'une situation comme la situation impériale aide à penser l'omniprésence de la traduction avant de la penser dans un cadre plus spécialisé ou plus professionnalisé. On y reviendra. Une autre situation... Même si là, en parlant de cette situation, j'évolue vers quelque chose de plus qui relève plus des rapports entre savoirs que des objets de savoir, c'est ce qu'on peut appeler l'ère culturelle. Donc on en a parlé, vous êtes plusieurs à finalement, je suppose, être familier de cette notion, ou en tout cas pouvoir l'avoir rencontrée dans votre inscription pour un diplôme, dans votre parcours antérieur, ou déjà les premiers séminaires que vous avez suivis cette année. Ici, c'est vrai que travailler sur la Chine et le Japon, travailler sur les rapports entre les sources arabes et les sources japonaises, c'est relever de l'acquisition de certaines compétences pour accéder à des documentations, pour développer un savoir linguistique très... philologique, au sens d'une compétence appliquée à l'interprétation de certains types de textes, de certains types de documents historiques. Et puis, voilà, c'est aussi s'insérer dans une certaine institution savante un peu particulière, qui en France s'appelle souvent des centres d'aire culturelle, comme il y en a plusieurs ici, qui définissent ses objets et son domaine privilégié d'études en fonction d'une région du monde et d'une certaine homogénéité culturelle de cette région du monde, très relative, mais quand même. Par rapport à ça, on a une problématique qui s'impose souvent, c'est le lien entre ce qu'on va appeler les traductions et ce qu'on va appeler les transferts culturels. Et le problème qu'éventuellement, souvent, les traductions sont réduites à n'être qu'une modalité du transfert culturel. On a une modélisation générale de comment se produisent des transferts culturels dans l'histoire, et les traductions, c'est une déclinaison de ça. C'est pas à côté, c'est pas différent, c'est une modalité d'un type plus large qui s'appelle transfert culturel. Ça remonte à tout un registre de la métaphore qui existe dans les études sur la traduction. On a dans la tradition germanophone du 19e siècle des philosophes de l'herméneutique, donc de l'interprétation des textes en rapport avec la traduction. Par exemple, donc j'ai un auteur dont on considère comme un peu un fondateur de la pensée de la traduction depuis le 19e siècle, qui est Friedrich Schleiermacher. La métaphore existe de l'affaire Pflanzung, c'est ça, c'est-à-dire de la transplantation. C'est comme ça qu'on traduit souvent cette idée de transplantation et transporte avec elle, nous livre un nombre d'ambiguïtés assez impressionnant. La transplantation, ce n'est pas le transfert culturel, c'est plus une métaphore donc végétale. C'est l'idée de bouturer une plante dans un terroir différent et de faire pousser une plante a priori similaire, génétiquement parlant, mais qui va s'accommoder d'un terreau hétérogène. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec une métaphore comme celle-là au-delà de ça, mais ce qui est vrai, c'est que j'y vois quand même un lien avec des métaphores qui existent quand on parle de transfert culturel, qui ne sont pas forcément des métaphores aussi organiques que la transplantation, mais qui relèvent quand même de l'idée qu'on prend une chose dans un endroit A et on l'emmène vers un endroit B et on regarde ce qui se passe, en gros. Et c'est resté très omniprésent, semble-t-il, dans les travaux sur la traduction. Il y a un petit livre que plusieurs d'entre vous connaissent sans doute, qui donc Schleiermacher, édition bilingue traduite par un texte traduit par Antoine Berman, l'autre par Christian Berner, avec une très intéressante introduction de Christian Berner et un dossier, un glossaire. Voilà, c'est cette collection assez géniale pour travailler sur les traductions, notamment, mais pas seulement, de textes allemands en bilingue, dirigé par Alain Badiou et Barbara Cassin. En plus, c'est en poche. Et ce petit livre par un traducteur lui-même, notamment, qui a beaucoup traduit de Immanuel Kant ou Friedrich Nietzsche, Marc Delaunay, et qui, dans ce petit... Donc, c'est une forme de que sais-je, c'est chez Vrin, mais c'est l'équivalent d'un que sais-je pour PUF, si vous voulez. Qu'est-ce que traduire ? Très vite, dès la page 12, on a, à propos des commentaires d'Aristote par Averroès, par Ibn Rushd, le problème de l'articulation entre la traduction littérale, le problème de la traduction comme phénomène purement de langue, linguistique, et ce qu'il appelle le problème général de la transposition culturelle. Et le fait, dit Delaunay, que de toute façon, ce problème général de la transposition culturelle ne peut pas être réduit à une affaire lexicale. Et que c'est ce qui a entravé le commentaire par Averroès de Aristote, c'est que même s'il réglait les problèmes au niveau des mots, les problèmes ne pouvaient pas se régler tout seuls en termes de culture. Et donc vous voyez comme là, je perçois la prégnance du schéma des transferts culturels, même si là ça s'appelle transposition culturelle, mais bon... transplantation culturelle, transposition culturelle, transfert culturel, tout ça va un peu faire synonyme, c'est qu'on a l'idée que l'opération de traduction, c'est quelque chose de plus large que une technique vis-à-vis de la langue, ça s'inscrit dans un panorama de cultures différenciées, qui sont des segments qui se recoupent plus ou moins, et qu'on ne peut pas traiter de traduction au sens strict, littéral, linguistique du terme, sans traiter, sans être engagé à traiter de la traduction comme phénomène socio-culturel au sens large, et que les deux présentent une forme d'homologie quelque part, que les deux choses marchent un peu de concert. Bon, c'est un lien qui n'est peut-être pas si automatique et si omniprésent que j'ai l'air de le dire, mais là j'ai juste pris une occurrence qui me semble... intéressante chez Delaunay, mais c'est un lien qui me semble susceptible d'être interrogé et il me semble utile d'essayer de dissocier précisément la traduction, les situations de traduction de la question du transfert culturel, donc de ne pas toujours penser que les conditions d'une traduction, les conditions du lancement d'une traduction résident dans une situation de contact et d'hétérogénéité de plusieurs cultures. Voilà, donc au plan assez général, une possible, pas une réponse, mais un problème à poser vis-à-vis de la question, quelles sont les conditions pour qu'une traduction se produise.
Oui, alors moi, je suis aussi tout à fait d'accord qu'il est intéressant de considérer la traduction comme une action, plutôt que d'être dans cette idée qu'on passe d'un champ culturel à un autre. Mais en même temps, la théorie des... Enfin, les études historiques des transferts culturels sont sans doute un peu plus complexes que ça quand on regarde les travaux de Michel Espagne et Michael Werner, par exemple, qui ont été pionniers, et d'autres, même ceux de Wilfred Portal, par exemple, assez récent sur les transferts franco-allemands. Néanmoins, effectivement, il y a des impensés du processus qu'on peut essayer peut-être de toucher via des approches, comme on essaie de le faire ici, où la question de la pratique est peut-être plus présente. Alors, moi, je voudrais insister sur la question de la différence des contextes de traduction, contextes nationaux, linguistiques, historiques. Alors, tu as mentionné effectivement le contexte impérial, et ça semble effectivement très important qu'on soit dans des comparaisons, parce que quand on pense la traduction depuis le contexte français, on pense la traduction depuis un contexte de national, à la fois d'homogénéité linguistique et de grande prégnance du français dans les sciences sociales. Et cette domination française des sciences sociales, elle n'est pas unique, hein, mais elle est très forte dans nos façons de penser la traduction également. Donc c'est très important et c'est ce qu'on essaye de faire en comparant des contextes de production des traductions. Hein, on l'a fait l'an dernier en invitant des traducteurs venant de Pologne, du monde arabe. On va recommencer de Russie. On va recommencer cette année. Vous avez vu un petit peu le programme. Donc pour nous, c'est essentiel. On avait aussi eu une séance avec autour de la Chine. Pour nous, c'est essentiel. On avait eu une réflexion qui, moi, m'avait marquée, c'était dans le séminaire il y a 2 ans, de la part d'un anthropologue spécialiste du monde arabe et qui avait, en comparant en fait, les contextes de traduction dans le monde arabe et en France, donné cette hypothèse qu'il était extrêmement important de s'intéresser aux enjeux symboliques de l'acte de traduire dans différents contextes. Donc, essayer de se focaliser sur que signifie pour les acteurs et pour les gens qui traitent de ces traductions cet acte même. Alors, à cette question-là de la diversité des contextes, donc on a un peu évoqué l'histoire des transferts culturels, il y a une autre approche qui est très, très prégnante aujourd'hui de la traduction, qui est la sociologie de la traduction. Donc ça, vous connaissez, j'imagine, les travaux depuis certains articles de Pierre Bourdieu hein, sur la circulation des sciences sociales, à ceux de Gisèle Sapiro, de Juana Popa, ou bien de Pascal Casanova. Je mettrai peut-être on mettra quelques références au titre sur la page du séminaire. Ce sera plus simple que de citer des choses extrêmement précises. Donc cette approche sociologique, mais aussi les approches historiques, ont insisté sur cette question du champ d'accueil, de l'importance du champ d'accueil, hein, d'être absolument focalisé sur la décision de traduire. Elle est moins liée à l'œuvre hein, qu'aux attentes d'un nouveau public qui se trouve dans la langue d'accueil. Et ça me semble très important, et que ces échanges-là sont assez différents des questions de marché économique. Hein, même la sociologie la plus proche de ces questions économiques reconnaît qu'il y a des logiques qui sont différentes, hein, qui sont symboliques, qui sont très différentes des logiques économiques. Alors, à ces deux approches, moi, je voudrais pointer une notion qui me semble importante, que j'ai trouvée aussi chez un sociologue, mais qui se trouve complètement dans un autre domaine, qui est Erwin Goffman, qui est celle du cadre de l'expérience. Donc, le cadre de l'expérience des acteurs qui leur permet qui nous permet d'envisager la dimension individuelle d'une expérience plus collective. Donc, concernant l'édition des traductions, ce qui me semble important, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que l'éditeur projette quand il prend une décision de traduire. Hein, parce que là, moi, je prendrai un peu plus le point de vue des commanditaires de traduction, que sont en premier lieu les éditeurs, mais auxquels participent évidemment les traducteurs, ça dépend un peu des configurations, hein, auxquels participent d'autres types de médiateurs, éventuellement des chargés de droit de maisons d'édition qui arrivent à convaincre d'autres maisons d'édition de prendre une traduction, auxquels aussi participent des intellectuels qui peuvent recommander des textes. Hein. Donc il y a une pluralité d'acteurs. Donc parmi ces acteurs, je pense qu'il est important de s'intéresser à leur motivation, qui peuvent être très différentes selon les contextes. Et en particulier, il y a, pour les sciences humaines, des pays où la question de la modernisation a été très importante. On a traduit pour moderniser la langue, mais aussi apporter des idées nouvelles, etc. Donc ça, c'est par exemple une dynamique qui est assez peu présente en France et qu'on oublie. Dans le contexte français, on peut se demander quelle est la nécessité de traduire. Hein, quand un éditeur vous dit « mais c'est très cher, c'est invendable, etc. » Mais on le fait quand même. Il faut bien le faire. Hein, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand vous interrogez des éditeurs de sciences humaines sur pourquoi et qu'est-ce que vous traduisez. Donc il y a une espèce d'opacité hein, chez les éditeurs français sur leur motivation. Alors, pour avoir animé pas mal de tables rondes aussi avec Francisca sur cette question, ça change. Il y a maintenant des jeunes éditeurs qui affirment leur volonté dans certains domaines, comme l'écologie, par exemple, de la nécessité de traduire y compris pour apporter des idées nouvelles qu'on ne peut pas développer à partir du français. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Hein. Donc pluralité des motivations et aussi des processus d'appropriation, hein, donc de la question des lecteurs. La sociologie de la traduction apporte aussi des idées extrêmement intéressantes et importantes, à mon avis, sur la question de l'inégalité des échanges. Hein, si vous avez lu un peu ces travaux, il y a cette idée qu'il y a un système mondial des traductions dans lequel interagissent des langues plus ou moins centrales ou périphériques. Et il y aurait des langues hyper centrales, comme aujourd'hui l'anglais. Hein. Le français, par exemple, restant une langue centrale dans le sens où elle reste pivot entre plusieurs langues et en ce sens, elle a un rôle particulier dans les échanges. Voilà, moi, ça me semble une approche intéressante, mais qui sans doute ne recouvre pas toutes les questions du contexte. Sur cette question de l'inégalité des échanges, je voulais vous montrer quand même un document qui me semble important. Je vous l'enverrai. Ah oui, c'est là. Par mail, c'est si on regarde les chiffres du Syndicat national de l'édition en France concernant les intraductions, l'intraduction et l'extraduction, on peut voir assez vite comment s'organisent les échanges par langue. Alors là, vous voyez, ça, c'est les acheteurs de droits de traduction. On voit bien là ? Oui. Donc les éditeurs, d'où viennent les éditeurs qui acquièrent des droits de traduction, donc des livres à traduire. On n'est que sur des ouvrages ici. C'est tout domaine confondu. On voit par exemple que la Chine est le premier acquéreur de droits français déjà depuis 2012. Hein, c'est assez intéressant quand on sait qu'on n'a pas forcément énormément d'échanges intellectuels avec ce pays. Voilà, une énorme activité de traduction. Et on voit comment ça se déroule. L'anglais ne représentant que 6%. Oui. États-Unis 4%, voilà, mais il y a aussi l'anglais Angleterre. Par ailleurs, si on compare cela avec la répartition des acheteurs de droits de traduction, oui, alors ça c'était avec les coéditions, ça c'est que les traductions, mais c'est pas très différent. Je vais vous montrer concernant les livres traduits en français. Où sont les, là, ils sont là. Vous allez voir, voilà, c'est complètement différent. Donc, vous voyez en jaune, c'est l'anglais, 62%. Donc, 62% des livres publiés en France en 2017, ça, c'est les chiffres, en fait, de la BNF. Hein, ce ne sont pas les chiffres des éditeurs. Ça concerne les livres qui ont été traduits. Le nombre est à peu près équivalent, c'est entre 12 500 et 13 000 titres. Bon, c'est encore une approximation, mais ça donne une mesure. Et c'est 62% l'anglais. Et vous voyez comment se développent les autres langues. Vers le français, oui. Voilà, donc vous voyez qu'on est quand même en régime de presque monolinguisme là-dessus. Sachant que si on regarde plus précisément, donc ce document, je pourrais vous l'envoyer par mail parce que vous aurez vraiment tout le détail, y compris par domaine. Hein. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais vous verrez, voilà, vous aurez... Comment ça, c'est sur les titres traduits en français. Hein, où, voilà, il y a un certain nombre de catégories. Je veux juste vous donner quelques chiffres de comparaison. Pour les sciences humaines et sociales, le premier pays pour les sessions, c'est l'Espagne, enfin la langue espagnole, pardon. 165 sessions, donc seulement pour les sciences humaines et sociales. Et il y a seulement, 181 sessions. Et dans l'autre sens, il y a eu en 2017 seulement 25 titres de sciences humaines et sociales traduits de l'espagnol. Donc on voit la différence. Hein. Concernant le chinois, donc 165 sessions en sciences humaines et sociales et zéro titre en sciences humaines et sociales traduit du chinois. Donc l'inégalité, elle est quand même assez saisissante. Pour le turc, 120 sessions et zéro acquisition. Pareil. Ben justement, on peut essayer de s'y interroger. Cet décalage veut dire simplement qu'on ne traduit pas d'ouvrages de sciences humaines et sociales depuis le turc, depuis l'arabe, depuis le chinois en France. Donc, quand on parle de l'inégalité des échanges, elle est claire, elle est nette, elle existe, on ne peut pas la nier. Hein. On traduit massivement de l'anglais, d'accord ? On traduit en sciences humaines et sociales un peu de l'allemand, de l'italien, ça dépend des domaines. Voilà, c'est les trois principales langues depuis lesquelles on traduit. Et il y a des langues comme effectivement l'arabe, le chinois, le turc, qui nous traduisent massivement, enfin massivement, qui nous traduisent relativement de façon importante nos auteurs. On ne les traduit pas. Ce qui pose un certain nombre de problèmes dans chaque rencontre internationale auxquelles on peut participer avec le Bureau international de l'édition française, avec voilà, les foires, etc. Donc il y a ce problème de réciprocité des échanges. Et ça n'évolue pas. Hein, quand on regarde les chiffres sur plusieurs années, voilà, ça n'évolue pas dans les ouvrages. Alors, dans les ouvrages. Je vous enverrai le document. Hein, je ne veux pas trop qu'on reste longtemps. Ça, c'est 2017, c'est les derniers chiffres. C'est pareil avec des langues type le norvégien, le suédois, etc. On traduit en français des livres de fiction, mais pas du tout de sciences humaines et sociales. D'accord ? Donc, c'est assez impressionnant comme ça, mais bien sûr, ce n'est pas toute la réalité. Si on s'intéresse vraiment... Oui ? Alors, le manque de traducteurs, c'est toujours la bonne excuse. Les traducteurs, il y en a. On en forme, on a des formations spécialisées à l'INALCO, à la Sorbonne, un peu partout. Il y a des gens. Hein, il y a des gens. Il y a un problème de contexte, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a un contexte national qui ne favorise pas... on ne voit pas, les éditeurs ne voient pas l'intérêt de traduire. Et il y a un processus de... Il n'y a pas les intermédiaires, il manque les médiateurs. Les projets n'arrivent pas. Quand on propose des projets, quand on dit on veut bien prendre des projets, donc aux éditions de l'HESS, par exemple, on a dit on veut bien prendre des projets. Mais les projets qui nous intéressent n'arrivent pas forcément. Hein. Donc les raisons pour lesquelles il n'y a pas ce genre de traduction sont complexes. Hein. Maintenant... Oui, maintenant, ça ne concerne que les ouvrages. Et on verra aussi qu'il y a un problème de transformation des traductions. Aujourd'hui, on traduit quand même de moins en moins d'ouvrages de sciences humaines et sociales. Donc, est-ce qu'on va avoir plus de traductions sur les revues, enfin, les articles, d'autres formes ? Ça, il faut voir. Hein ? Donc, ça, c'est un peu voilà, une espèce de chiffre un peu massif, mais ça ne concerne pas tout. Hein ?
Juste à quoi me fait penser là ce que tu disais sur la Norvège ou le Norvégien ou le Suédois, c'est finalement pour l'année dernière on avait une séance sur l'auto-traduction à un moment avec Annick Louis qui avait abordé plusieurs facettes du problème. Et là on pourrait se demander s'il n'y a pas des langues où justement l'auteur lui-même finalement écrit dans une autre langue, soit l'anglais, soit l'allemand. Et que finalement après il revient, si traduction il y a, il revient au niveau des chiffres, il revient par une autre fenêtre linguistique, qui pose encore différemment le rapport du lien entre traduction linguistique et traduction culturelle, si on cherche à l'établir, ou en tout cas ou à le problématiser. Quoi.
Oui, moi, ça me semble absolument net dans les articles de revue. Hein. Là, on est sur un nombre considérable de traductions cachées, donc de traductions qui ont lieu avant publication, soit l'auteur lui-même s'autotraduit, soit il fait appel à un traducteur qui n'est même pas signalé, il publie en anglais ou en français en ayant une autre langue. Donc, effectivement, il y a un autre contexte, etc. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que ces auteurs, on ne les entend pas, mais c'est le processus peut-être de traduction entre ces langues qui n'est pas visible.
Non, mais quand même, la langue, du coup, elle n'est pas là, quoi.
La langue n'est pas là.
C'est ce que je disais sur la centralité du français et l'hégémonie des sciences sociales françaises pendant des années. En même temps, le sentiment général, c'est plutôt celui du déclin. Et la façon dont on pense la traduction aujourd'hui, c'est l'idée de se dire il faut qu'on écrive en anglais, il faut qu'on traduise vers l'anglais, parce qu'on n'est plus une langue qui a des circulations internationales. Donc, vous voyez, on ne pense pas à cette hégémonie, on pense plutôt ce déclin. Mais en même temps, elle est là.
Non, non. Entre intellectuels, on peut se le dire.
J'ai pas dit que c'était bon mot. J'essaie de parler de justement de ce dont je parlais tout à l'heure, cette question de l'espace d'expérience. Hein. Non, c'est pas par hasard, mais on pourra reparler de cette question. On a une séance qui est prévue avec justement des chargés de droit un peu plus tard. Et justement, ce que vous dites donne l'idée qu'on pourrait essayer de trouver un éditeur qui acquiert les droits, pour parler des deux facettes en même temps, hein, dans la même séance. En France, c'est les éditeurs qui font le travail. Ça, c'est vraiment une différence culturelle, on peut dire, une différence de pratique. Une différence de pratique éditoriale et professionnelle. Les agents ont une très, très petite place en France. Elles n'ont pas du tout cette place qu'elles ont dans le contexte anglophone. Mais la langue anglaise traduit encore moins que le français. Hein. Parce qu'en France, c'est à peu près... en 2017, c'était 15% de livres traduits, enfin, tout domaine confondu. C'est 4 à 5% aux États-Unis. Hein. Donc, malgré... les agents sont aussi plutôt des agents d'exportation que des agents d'importation dans ce contexte.
Oui, je ferai peut-être le lien entre cette première question qui est donc celle des quelles sont les conditions pour qu'une traduction puisse avoir lieu et la prochaine question qui sera celle des pratiques à partir d'un exemple très, très simple, un exemple pratique peut-être qui est donc le travail dans une collection ou le travail d'une collection dans une maison d'édition associé à une structure de recherche, disons, donc dans ce cas-là, des éditions de la Maison des sciences de l'homme. Je le dis comme ça parce que c'est quand même très différent, une maison d'édition qui appartient ou qui est en lien avec une institution de recherche et une maison d'édition libre. Donc, une maison d'édition qui opère dès le départ entre la recherche et le domaine éditorial qui se finance aussi autrement qu'une maison d'édition libérale. Tout ça va avec, évidemment. On va, je pense, revenir sur ce type de questions aussi plus tard dans notre séminaire. On l'a déjà traité un peu, surtout l'année dernière. Donc, juste pour faire le lien, donc comment ça marche, comment peut fonctionner une telle collection et avec tous les paradoxes qui vont avec. La collection pour laquelle je m'occupe. Ah, maintenant, ça s'est débranché. Elle s'appelle donc Bibliothèque allemande. C'est une collection donc uniquement consacrée, mais il faut que Internet revienne, uniquement consacrée à des publications, des traductions de l'allemand vers le français. Et une telle collection chez nous fonctionne toujours avec un comité de sélection. Et je vous décris ce fonctionnement tout simplement pour poser quelques questions. C'est-à-dire, quand on se demande qu'est-ce que fait un comité de sélection pour faire un choix de livres, automatiquement, il faut poser la question quels sont les critères d'un tel comité. Donc, autrement dit, quelles sont donc les conditions pour que, finalement, la traduction d'un livre peut avoir lieu. Voilà, ici vous avez un petit aperçu. Je viens de recevoir dans les boîtes la dernière parution qui était celle de Martin Mulzo, Savoir précaire, une histoire de la transmission des savoirs. Donc, quels sont les critères? Un comité de sélection, un comité de lecture scientifique est donc composé des personnes qui appartiennent aux institutions qui financent la collection. Donc, ce sont des institutions culturelles comme dans mon cas, le Goethe-Institut, le DAD, la FMSH, le HESS, et après des chercheurs. Et nous avons donc fait une révolution, une toute petite révolution, mais quand même une révolution. Nous avons invité à partir de cette année aussi des traducteurs à participer à ce comité de sélection, ce qui est quand même un petit peu nouveau, je crois. On peut me corriger, peut-être que vous avez des exemples. Mais jusqu'à présent, ce sont donc des chercheurs, dans ce type de structure, des chercheurs qui posent évidemment un regard de chercheur sur le monde éditorial et sélectionnent des livres. Et j'ai essayé de trouver des gens qui sont à la fois traducteurs et chercheurs, parce que la plupart du temps, en sciences humaines, quand même, un traducteur appartient aussi d'une manière ou d'une autre au monde de la recherche, pour élargir cette perspective. Parce que bien sûr, quel est l'intérêt d'un chercheur? Et c'est la question un peu polémique que je pose, c'est est-ce que vraiment un chercheur a quelque chose à faire dans un comité de lecture? Un comité de sélection éditoriale, c'est une vraie question. Je la pose de manière polémique, mais la réponse n'est pas donnée. Je pense que c'est oui et non, c'est-à-dire oui d'une certaine manière, mais quand même, ce regard reste partiel et s'intéresse évidemment à d'autres réalités que le regard d'un traducteur ou bien même d'un éditeur. Parce qu'évidemment, un chercheur va chercher des choses qui sont en lien avec ses domaines de recherche, mais aussi qui s'adressent à un monde de recherche qui n'est pas forcément le public d'un livre publié par une maison d'édition, c'est-à-dire tout simplement les chiffres de vente de notre collection ne sont pas les meilleurs. Donc, comment faire le lien? Et c'est, je le dis comme ça avec une certaine franchise aussi, pour montrer le dilemme, parce que je crois que ce qu'on peut dire avec dignité, c'est qu'on cherche vraiment sérieusement à des solutions à ce dilemme qui reste un dilemme. Comment combiner, comment mettre ensemble une certaine envie quand même toute réduite, quand même d'une certaine performance économique, c'est-à-dire comment vendre des livres, comment faire des livres qui se vendent tout en ayant une exigence scientifique. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Ça commence donc avec la composition d'un tel comité de lecture. Donc, on va voir ce que ça donne maintenant dans la suite. Et après, ça continue avec le rayonnement. Et donc, je me permets de vous présenter un tout petit peu ce contexte, parce que c'est aussi quand même le contexte de notre séminaire. Nous avons essayé d'accompagner cette collection donc très précise, qui fait un à deux livres par an, dans lequel sort un à deux livres par an, par un programme plus large dans lequel nous réfléchissons des deux questions qui vont suivre maintenant, c'est-à-dire quelles sont les pratiques de traduction et qu'est-ce qu'apporte la traduction aux sciences humaines? Donc, quelle valeur de la traduction au-delà d'une idée un peu réduite de la traduction comme passage d'une langue à l'autre, tout simple. Et pour cela, j'ai créé ce programme qui s'appelle Penser en langue. Il y a donc un site, je vous le montre, parce que sur ce site, vous trouvez aussi l'onglet séminaire, EHESS, et c'est notre séminaire. Ici, vous avez toutes les séances des deux dernières années avec tous les enregistrements ou presque tous les enregistrements des derniers séminaires. Vous pouvez passer comme ça, je ne sais pas combien d'heures d'audio archive pour retracer l'histoire du séminaire. Et les résumés écrits aussi, oui. Et les résumés écrits de chaque séance et le programme actuel de cette année. Et vous trouvez aussi ici les comptes rendus, des annonces, des affiches, des machins, des rencontres de traducteurs qui ont eu lieu les dernières années. Chaque année, j'organise une rencontre de traducteurs qui vise à mettre ensemble traducteurs, chercheurs, éditeurs pour réfléchir ensemble ce que c'est le savoir produit par la traduction. Après, il y a donc la collection proprement parlée. Nous avons créé également un programme de résidence à la maison Sugère. C'est la maison, c'est là où accueille la FMSH des invités scientifiques, où des traducteurs et traductrices, surtout c'était des traductrices, peuvent passer des courts séjours de recherche pour travailler sur leur projet de traduction en sciences humaines, juste encore une fois dans l'idée de valoriser le travail de recherche que demande une traduction en sciences humaines et sciences sociales. Et dernièrement, un site qui s'appelle Daedalus. Je pensais d'avoir fait un petit lien, je ne le trouve pas, je le mets là. Qui est donc une petite plateforme, toute petite plateforme, hein, modeste, mais quand même, de traduction, un laboratoire, si vous voulez, de traduction dans lequel je publie successivement des textes qui sont issus du contexte de ces rencontres de traducteurs. Il y a donc plusieurs catégories, les auteurs évidemment, dans lesquels figurent aussi les traducteurs. Les traducteurs sont ici considérés comme auteurs. Et donc des textes, j'ai fait plusieurs catégories, contexte, face à face et digression. Contexte pour montrer qu'une traduction, ou pour engager une réflexion plutôt sur le fait qu'une traduction s'insère et crée des contextes. Par exemple, quand on traduit un... c'est clair, on va revenir là-dessus plus tard. Face à face, ce sont des dialogues entre un traducteur et son auteur, mort ou vivant, peu importe, et digression des textes divers qui interrogent de manière plus libre ce que c'est la traduction. Voilà, tout cela pour vous inviter de lire si ça vous intéresse. Il y a des textes à découvrir, des auteurs et des traducteurs à découvrir, pour donner une voix donc, aux traducteurs qui restent souvent un peu cachés et pour essayer de réfléchir. Et encore une fois, il n'y a pas encore de réponse parce que pour moi, toute cette réflexion est quand même, même si ça dure déjà depuis quelques années, elle reste récente. C'est-à-dire, je pense que quand même dans cette envergure-là, elle est rarement posée comme ça, comme réflexion de ce que c'est donc ce savoir de manière très concrète. Ce savoir produit ou investi par la traduction. Voilà, donc une tentative et dans laquelle donc je vois tout à fait ce séminaire et c'est un peu l'idée dans laquelle on va poursuivre aussi dans cette année, de vraiment concrètement mettre ensemble les différents registres qui sont les nôtres ici entre l'édition et la recherche. Voilà, et qui sont finalement liés par les pratiques. On rechange, comme ça on reste dynamique.
Oui. Alors, toujours par hasard, je ne sais pas pourquoi il m'incombe d'inaugurer la deuxième question. Je vais essayer de... Alors là, c'est encore plus sur le mode de la réunion un peu en gerbe de deux ou trois questions, de glaner ça et là. Ou en référence à quelques citations, donc ça ne va pas être très long. Puis après, je vais revenir sur un plan éventuellement soit anecdotique, soit en lien avec des réflexions très approfondies qui nous avaient été proposées l'an dernier. Mais là aussi, je vais le faire très rapidement sur quelques questions qu'on avait croisées. Alors, comment penser la traduction depuis une pratique ou à partir de l'enjeu de la pratique? Bon, c'était dans le titre du séminaire, il était pour l'introduction d'aujourd'hui, il était question de pluralité et de transdisciplinarité. Les deux renvoient à un champ bien plus résolument pragmatique qu'autre chose, dans la mesure où la transdisciplinarité aujourd'hui, dans un contexte pas seulement francophone, est beaucoup plus pensée sur le mode de la trajectoire plutôt individuelle de certains chercheurs ou de la définition, de la capacité à réunir sur des projets en pratique des groupes de chercheurs venus d'horizons hétérogènes. Et même dans transdisciplinarité, il y a l'idée de trajectoire et de passage d'un point à l'autre qu'on n'a pas dans interdisciplinarité, par exemple, qui est une notion beaucoup plus statique. Donc c'est une pratique, la transdisciplinarité, finalement, c'est pas un nouveau champ de la science. Et puis la pluralité, ça renvoie aussi au problème de la pratique comme fondement de notre approche de la traduction, puisque ça renvoie à quelque chose qui est un peu un classique du genre, qui est de souligner qu'il y a des méthodes de traduction, il y a des métiers de traducteurs, et il y a même des traductions elles-mêmes. Pour un texte donné, il ne doit y avoir que des traductions, il ne peut pas y avoir une traduction. Idée qu'on retrouve chez un autre, un peu des pères fondateurs de la traductologie, je ne sais pas si on doit employer ce terme, de langue allemande, Wilhelm von Humboldt, notamment dans les textes comme la partie sur la traduction qui est dans son introduction à la traduction qu'il a faite de l'Agamemnon d'Eschyle, où il souligne que la traduction ne peut pas être pensée comme une œuvre, mais comme un travail, c'est-à-dire comme quelque chose de sans cesse réactualisé, et même éventuellement comme quelque chose qui est mis en pratique de manière simultanée par plusieurs efforts simultanés pour aboutir à quelque chose de pluriel. Et donc finalement, pour connaître les textes originaux, pour mieux les connaître, dit-il, on doit avoir une pluralité de traductions. Une seule ne suffit pas. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui peut rappeler certaines formes d'impératif de vérification en science, même à la limite. C'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas valider une expérience si on ne l'a pas reproduite un certain nombre de fois, par exemple. La traduction, quelque part, présenterait presque des parentés avec ça, mais pas non plus complètement. C'est l'idée que la compréhension d'un texte, d'une langue, de ce que dit un auteur dans une langue, ou de ce que dit un document dans une langue, ne sera fiable ou fiabilisé que moyennant la confrontation de plusieurs traductions déduites de ce document source. Ce qui est quand même, là pour le coup, en termes éditoriaux, un peu un défi, parce qu'économiquement, on voit bien la difficulté qu'il y a à légitimer que plusieurs éditeurs fassent la traduction de la même œuvre au même moment et la publient et la mettent sur les mêmes rayonnages. Mais des fois, il y a des hasards qui font que ça arrive quand même, donc c'est intéressant. Après, parler des méthodes de traduction et des méthodes de traducteurs, c'est aussi souligner qu'il n'y a pas vraiment de théorie de comment traduire. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la conférence de Schleiermacher, par exemple. Et une idée qui va assez loin, qui est de penser la traduction comme un art, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a que très peu de caractère mécanique ou mécanisable, et où on est dans une activité qui ne dispose pas vraiment de ses règles, des règles de son application, avant même d'être actif. C'est-à-dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour le dire simplement. C'est en faisant qu'on découvre les règles qu'on actualise les règles qu'on est en train d'appliquer. Donc cette absence de mécanisme dans la traduction fait que chaque nouvelle tentative, même appliquée à une phrase ou deux, peut relever d'un choix différent, de suivre une nouvelle pente, et d'adopter une nouvelle méthode, si tant est qu'on puisse encore, dans ces conditions, parler vraiment d'une méthode. On a souvent glosé sur le texte de Schleiermacher en disant que le terme de méthode devait vraiment être pris au sens le plus faible, dans l'acception la plus faible du terme. Dernière petite idée que j'ai glanée dans quelques lectures, c'est une référence, moi je connais mal les textes de Goethe sur la traduction, je pense que je les lirai plus dans peu de temps, notamment le Divan oriental-occidental, comme on le traduit, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une édition récente qui a l'air assez bien faite, mais notamment il y a un texte intéressant sur Goethe et la tâche du traducteur qui a été publié par Jean Lacoste dans la revue Romantisme en 1999, un numéro qui s'intitulait « Traduire au XIXe siècle », donc Jean Lacoste, hein, comme Lacoste, et donc où l'argument de Lacoste, c'est de souligner que la traduction n'est pour le coup qu'une variété littéraire, textuelle, concrète, d'un processus plus large qui, dans la terminologie de Goethe, va s'appeler la métamorphose. Et que, aussi bien donc, dans la création littéraire que dans la nature, dans le monde animal que dans le règne végétal, on a affaire à une métamorphose permanente et que la traduction peut être conçue comme partie prenante de cette gamme de possibles de la métamorphose Et que du coup, dire traduction égale métamorphose, c'est dire qu'il y a des traductions qui peuvent être des recréations ou des imitations, d'autres des pastiches, d'autres des caricatures, d'autres des modalités très variables finalement d'une démarche qui porterait le même nom mais qui ne serait pas la même chose. Donc là aussi, grand accent sur la pluralité. Ce à quoi peut-être tout ça nous fait arriver concrètement dans le champ de la pratique et dans les questions que déjà Anne et Francisca ont plus abordées tout à l'heure, c'est le rapport entre traduire et faire la traduction une profession, devenir un professionnel, se professionnaliser en traduction, et aussi le rapport entre le métier de la recherche scientifique, les professions de la recherche scientifique et les pratiques et les méthodes de la traduction. Donc il y a eu des éléments déjà dans ce que Anne et Francisca ont dit à l'instant. Et il y avait des éléments dans plusieurs séances, ça a émergé sur les dernières séances de l'année dernière. Par exemple en mai, quand, alors je ne sais jamais comment on prononce les lettres en polonais, Michał Herer, le traducteur qui nous avait parlé de sa traduction de Foucault notamment, qui se présentait à la fois comme philosophe et traducteur. Bon, c'est une commodité de langage, mais c'était aussi, je crois qu'il avait un peu mis l'accent là-dessus malgré tout, c'était quand même se poser un problème de est-ce que je suis philosophe quand je suis traducteur, est-ce que je suis traducteur quand je suis philosophe, est-ce que je suis d'abord philosophe puis traducteur, est-ce que je suis les deux sur un pied, sur un même de plein pied, est-ce que traduction c'est une occupation en plus, un facteur de développement d'un certain pan de mon activité intellectuelle en tant que chercheur ou autrement. Voilà, c'était des questions très ouvertes qu'on avait commencé à se poser. Il y a aussi le rapport entre la compétence et l'expérience dont tu parles, enfin tu dis autrement, entre connaissance et expérience, c'est-à-dire quand en juin, Zhang Lun, dans la séance sur la Chine, à laquelle aussi avait participé Isabelle Thirault, avait introduit son discours, enfin sa présentation en disant « Je vous préviens, moi je suis nul sur le sujet de la traduction », c'est-à-dire qu'il se dissociait totalement d'un discours d'autorité de la connaissance, mais il ajoutait après « Mais je suis un acteur de stage, existentiellement parlant, je suis sans cesse dans la traduction », donc il parlait du quotidien en disant ça, mais en même temps montrait qu'il y avait finalement une continuité un peu bizarre et une complexité de ça qui faisait que en tant que chercheur il était sans cesse dans la traduction, mais qu'en même temps il se récusait s'il s'agissait de se poser en traducteur professionnel en un sens. Plus récemment, à titre personnel, je faisais relire par une collègue un projet de recherche que j'avais écrit, et il y avait un passage sur ce qu'on fait ici en fait, et sur des projets que je voudrais avoir de traduire aussi des ouvrages au moins un d'un historien turc qui semblerait être un défi à traduire et qui pourrait avoir un intérêt, y compris pour des lecteurs francophones. En réfléchissant à la formation d'une forme de sphère publique dans le monde ottoman tardif, et qui peut tout à fait susciter des échos avec des réflexions sur ce que les régimes politiques plus ou moins dictatoriaux de la même région post-ottomane, on peut l'appeler du Moyen-Orient arabe ou de la Turquie contemporaine ou autre, ou même jusque dans l'Europe centrale. Et ben voilà, on pouvait trouver un jeu d'écho qui rendait la vendabilité du livre. On peut tout à fait éventuellement argumenter, même si ça reste un livre d'abord de chercheur. Et j'avais mis donc dans ce projet de recherche un passage assez long sur l'articulation entre le travail sur la traduction et le travail de la traduction. Donc en disant, je travaille sur la traduction dans mon temps, mais ça implique que je me fasse moi-même traducteur. D'ailleurs, je le suis déjà, puisque quand je travaille sur des sources, des archives, je les traduis pour les présenter à un lectorat qui n'a pas tout le temps la connaissance linguistique. Donc je traduis sans cesse. Et cette collègue a considéré que ce passage était assez non pertinent par rapport à un projet de recherche, en considérant, je cite presque de mémoire, t'es chercheur, t'es pas traducteur. Bon, c'est une version raccourcie, et évidemment elliptique, et il y avait beaucoup de sous-entendus qui est difficile de sonder, mais ça renvoie toujours à un rapport ambigu entre la maîtrise de la langue du côté des professionnels de la recherche, du côté des professionnels de la traduction, avec le fait ambigu que beaucoup de chercheurs vont, précisément à contrario de ça, vouloir non pas être reconnus comme, mais se faire traducteur, donc se récuser quand il s'agit de dire compétent, mais en pratique être quand même bel et bien traducteurs au nom d'une forme d'autorité qu'ils exerceraient sur le langage de la recherche. La langue du chercheur, qui mieux qu'un chercheur, la langue des sciences humaines et sociales, est-ce qu'il ne faut pas connaître bien les sciences humaines et sociales pour la pratiquer dans un champ de traduction ? Et inversement, est-ce que ce n'est pas intéressant de faire appel à un traducteur plutôt littéraire pour traduire un travail de sciences humaines et sociales, en considérant que le travail de vérification et de entre guillemets, de fact-checking sur le plan du vocabulaire technique des sciences humaines et sociales, après tout, l'auteur doit pouvoir le faire. S'il connaît la langue cible, évidemment. Si un chercheur qui connaît l'anglais, l'allemand et l'espagnol se fait traduire en chinois, malheureusement, il ne peut pas aller vérifier qu'en chinois, son vocabulaire est toujours conforme à le vocabulaire qu'on emploie dans ces sciences. Mais quand on se traduit du français à l'anglais, typiquement, en tant que francophone, on ne sait pas bien s'exprimer en anglais, ce n'est pas suffisant, mais on peut quand même vérifier sur le texte traduit que le vocabulaire de la traduction anglaise présente un petit défaut de conformité avec le vocabulaire des collègues anglophones qu'on lit régulièrement. Et donc, c'est le chercheur qui corrige la traduction, et le traducteur, à ce moment-là, a pu être dans une vision plus littéraire de son travail et moins scientifique. En tout cas, il y a une réflexion sur la dialectique ou l'ambiguïté de tout ça qui me semble forte en termes de pratique. Et dernier point, en lien avec ça, c'était une considération qu'on avait envisagée avec Isabelle Thirault à la fin de la séance sur la Chine. C'était le rôle, finalement, de la littérature jeunesse qui me semble très intriguant dans tout ça. Vous avez vu peut-être, même dans les tableaux, qu'elle est très très haut, la littérature jeunesse, dans les classements. Et un autre traducteur qu'on avait contacté l'an dernier de Turquie, qui n'était finalement pas venu, malheureusement, pour des raisons personnelles, Ali Berktay, vous cherchez sur les sites des librairies en ligne en Turquie, Ali Berktay, parce que donc il est référencé comme traducteur des ouvrages, et il a traduit des centaines et des centaines d'ouvrages. Donc il y a beaucoup de sciences humaines, il y a de la littérature, et puis la masse, c'est je dis n'importe quoi, hein, mais c'est ce qu'on appellera la littérature jeunesse, si cette rubrique elle est employée dans le monde éditorial, donc je la reprends. Et ça, c'est une idée qui était venue à propos de ce qu'Isabelle Thirault avait dit sur le fait que des notions clés symbolisées par des idéogrammes en chinois et qui vont être présentes de manière récurrente dans toutes sortes d'expressions composées par la combinaison d'idéogrammes pour des notions qui n'ont plus rien à voir dans la langue si on traduit en français ou en anglais. Et pourtant, en chinois, elle reste là, la notion. Elle reste engoncée dans le jeu d'idéogrammes dont elle fait partie. Et donc c'était pour ça qu'à un moment la question s'était posée de est-ce que finalement des fois on ne trouve pas dans la littérature jeunesse des formes d'écriture qui précisément relèvent d'une combinaison des mots, de la création lexicale, de la lexicalisation de mots complètement inventés, qui permettrait peut-être de jouer sur ces effets de présence-absence qui posaient problème selon Isabelle Thirault quand on traduisait du chinois vers le français par exemple. Bon voilà, c'est une question là, ça serait très bizarre de proposer subitement que toute la traduction des sciences humaines, par exemple de l'anglais vers le français, on se mette à réécrire les livres dans un style de littérature jeunesse. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une expérimentation qui pourrait être tentée à un niveau au moins lexical, quoi, pas au niveau de la langue et de la syntaxe, mais au niveau lexical. Voilà pour un peu quelques éclairages possibles sur les pratiques.
Oui. Oui, donc moi aussi, je trouve que c'est absolument un axe essentiel du séminaire. Enfin, je l'ai déjà dit au début sur l'importance des pratiques et de croiser les points de vue. On aura d'ailleurs une séance de table ronde. Bon, on vous a juste donné le titre pour l'instant. Ce sera la valeur de la traduction, donc la nuit des idées. Donc, ce sera quelque chose d'un peu plus long, de peut-être 3 heures dans l'amphi, si on arrive à la voir. Où on fera intervenir plus d'intervenants, et notamment des traducteurs. Et on croisera, on avait vraiment pensé travailler sur cette question de la collaboration ou les problèmes de collaboration entre traducteurs professionnels ou dits professionnels et traducteurs chercheurs ou dits chercheurs. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de passerelles, en fait, et derrière ça se joue la question de la légitimité scientifique, mais aussi linguistique, et de l'argent, du paiement, enfin... Bon, il y a énormément de questions. Donc, la valeur de la traduction. On essaiera de discuter de ça. On a aussi commencé avec plusieurs collègues, dont Katharina Trossel, qui s'est présentée rapidement et qui a présenté également l'association, des nouvelles associations des traducteurs et éditeurs de sciences humaines, et la revue Les Annales, qui est aussi éditée par l'édition de HESS. Donc on a commencé des séances d'ateliers sur la question spécifique de traduire, éditer vers l'anglais. Alors, l'idée de l'atelier, c'est d'être vraiment de partir des pratiques et de l'échange d'expérience. Donc, on est un peu sur autre chose que le séminaire. Et en se focalisant sur cette question de la traduction et de la publication en anglais, en France, on pose les questions du rapport des langues tel qu'on en a parlé tout à l'heure, d'une autre façon, et aussi du rôle du traducteur et du rapport en fait entre l'institution universitaire et les traducteurs indépendants. Donc voilà, c'était l'idée. Oui. Oui. Publiées ou en tout cas des traductions faites en France. Voilà. Financées, si vous voulez. Voilà. Justement, c'est ça le problème. On déconnecte. Aujourd'hui, c'est des enjeux qui sont déconnectés. La question de l'édition et la question de la traduction. Et c'est un peu un problème, évidemment, puisqu'on est là sur des processus plus d'exportation de textes, si vous voulez. Donc, dans les circulations, on n'est pas... De toute façon, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais la question du numérique a totalement bouleversé l'édition et de savoir. Et donc, voilà, la question qu'on va poser aussi, c'est où on en est avec la traduction là-dedans. Mais juste sur comment penser depuis une pratique, donc, je voulais signaler cet atelier, des gens qui sont intéressés, c'est aussi un lieu pour discuter de ça. Il y a une chose dans ce que tu as dit, Marc, qui me semblait vraiment important, c'est la question de l'auteur, la question du professionnel. Vous savez qu'en droit, quand même, on estime que le traducteur est un auteur, en tout cas pour les traductions de texte, pas pour les traductions techniques. Et ça, ça reste quand même quelque chose de très important. C'est un fondement en fait juridique, puisqu'on paye en droit d'auteur, puisque le traducteur doit être mentionné. Enfin, il y a toute la législation là-dessus. Et c'est quelque chose qui est aussi un peu remis en cause par les pratiques, y compris par les pratiques de la traduction vers l'anglais, puisque c'est un peu différent. Voilà, aux États-Unis en particulier, et en Angleterre aussi. Et on a souvent l'impression que le traducteur de textes de sciences humaines vers l'anglais peut se retrouver en situation d'être juste un prestataire de service, surtout s'il a en plus un chercheur qui connaît l'anglais et qui va corriger les concepts, etc. Donc ça peut être un peu la lutte entre une question vraiment d'hierarchie très, très dure. Et ça, il ne faut pas se leurrer sur le problème. En tant qu'éditeur, on est confronté à cette question de quel type de traducteur on souhaite avoir pour des livres, traducteur professionnel ou traducteur chercheur. En fait, on a les deux. Aux éditions de HESS, on travaille avec les deux. Les gens arrivent des fois avec leur projet de traduction qui a été fait dans le cadre d'un projet de recherche, ou bien c'est un chercheur lui-même qui a traduit. C'est très fréquent. Ou bien c'est aussi une collaboration. C'est encore plus fructueux quand il y a une bonne collaboration entre plusieurs traducteurs et où il y a une vraie discussion. Je vous engage d'ailleurs, si vous avez des projets, à ne pas hésiter à nous proposer. On a une collection qui s'appelle Translation et qui est... je n'ai pas forcément le temps de mettre le site, mais en tout cas qui est consacrée aux traductions avec une grosse introduction du traducteur sur la question de la traduction. Donc, vous avez la possibilité d'écrire 50 pages. Voilà. Et on est en recherche de projets, donc n'hésitez pas. Par contre, c'est une collection où on ne peut pas payer la traduction. Je précise, je suis obligée de le préciser. Ça veut dire que la traduction doit être quelque part financée sur un projet de recherche différemment. Le problème principal de l'éditeur, là, pour le coup, c'est qu'il n'y a aucun fonds alloué spécifique dans le budget. Nous, on essaie toujours de mettre un petit budget là-dessus, mais très bien, merci.
Les prix sont élevés là pour le marché français.
Oui. Oui, c'est des livres assez gros, oui. Oui. On fait un certain nombre de traductions, mais on n'a pas pour cette collection en fait, on n'a pas par exemple de budget propre. Et on va prendre un projet du croate. Donc voilà, on va augmenter les chiffres. Bon, si on est tout seul à le faire, ça va être difficile d'être statistiquement probant. Bref, voilà, donc cette question de la légitimité me semble importante, mais c'est aussi pour la pratique la question du collectif qui semble ici peut-être une façon de résoudre les dilemmes, c'est-à-dire d'essayer d'être plus, de voir ce processus d'éditer les traductions comme une collaboration collective. Hein. Il y a le traducteur, il peut y avoir le chercheur, il peut y avoir plusieurs traducteurs-chercheurs, il peut y avoir l'éditeur. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une œuvre, seulement une œuvre individuelle. Et ça, c'est peut-être une autre façon de regarder les choses. Mais il ne faut pas négliger le problème de légitimité et la lutte qu'il y a derrière.
Oui. Je voudrais juste, aussi le temps avance vite, je voudrais juste encore une fois revenir sur ce point. En fait, je fais les ponts. Moi, je suis celle qui fait les ponts. C'est en fait le pont entre cette question des pratiques qui nous amène tout de suite aussi à l'avenir de la traduction en sciences humaines et sociales. Mon hypothèse avec laquelle je me mets dans ce séminaire est celle que vraiment la traduction se situe à la jonction de la recherche, de l'édition et de la diffusion des savoirs dans un sens un peu large, et qu'à cette jonction-là, elle a un accès privilégié au texte et, en tant que telle, un accès privilégié au savoir, et pas seulement cela, produit aussi un savoir propre. Ça, c'est une hypothèse à discuter qui peut aussi être falsifiée, mais en tout cas, ça serait l'hypothèse. Ainsi, la traduction, à mon avis, agit donc à la fois dans le transfert culturel, entre parenthèses, puisque c'est devenu un concept tout de suite, dès le début, complexe, mais vous savez ce que je veux dire, je veux le dire dans un sens un peu plus large, c'est-à-dire, voilà, je suis aussi contre le concept du transfert culturel, mais donc, dans un sens large, mais aussi, et aussi un dispositif de lecture ou bien d'interprétation privilégié. Donc, on peut donner accès à des méthodes d'interprétation en sciences humaines et sciences sociales différents. Je pense, donc j'ai trois exemples comme ça dans la tête que je vous présente pour donner du concret à cette idée un peu plus générale. C'est si on considère la traduction ainsi, on pourrait s'imaginer par exemple un travail sur les archives de traducteurs qui pourrait être très intéressant. Généralement, les archives de traducteurs ne font pas vraiment objet des études scientifiques, tandis que ça peut être très intéressant de regarder les manuscrits des traducteurs, mais aussi leurs exemplaires annotés ou bien les correspondances dans lesquelles les traducteurs discutent leur travail. Je pense à deux exemples. Bon, mon domaine est un peu le germanique, oui, mais il y a certainement des exemples pour d'autres langues peut-être encore plus intéressants, mais pour l'allemand, ce sont notamment Elmar et Erika Tophofen, qui sont surtout des traducteurs littéraires, mais pas seulement. Ils ont beaucoup traduit Beckett, par exemple. Et bon, Beckett est un littéraire, mais pas seulement non plus. Et ils ont eu une espèce de méthode de traduction qui est dite transparente. C'est-à-dire qu'ils ont laissé énormément de notes et d'annotations. Et ça serait très intéressant, comme projet de recherche, de travailler sur ces notes pour voir en quoi ce rapport à la langue et ce travail de traduction n'a pas seulement produit une traduction, c'est-à-dire un original et un texte après publié comme traduction, mais peut-être même une matière tierce, non publiée, mais quand même produite là, accessible, qu'on pourrait traiter. C'est vraiment une hypothèse parce que je n'ai pas fait ce type de recherche, mais ça serait une recherche que j'aurais très envie de faire. Même cas serait Eugen Hemley. Et là, vous voyez tout de suite que c'est très simple, en fait. La transdisciplinarité devient très simple. C'est là, à partir d'un certain point de vue de recherche, vous, évidemment, vous lancez dans un travail d'archives en collaboration avec les archives littéraires et peut-être même en partenariat avec des Digital Humanities pour traiter tous ces textes que vous allez produire. Voilà, ça serait une pratique de recherche en lien avec la traduction, entre la recherche et la traduction. Un autre champ d'application serait une espèce d'historiographie, c'est-à-dire écrire des histoires croisées. Michel Werner a déjà été nommé. Évidemment, la traduction est un champ privilégié pour l'histoire croisée, parce que dans la migration des concepts, à partir d'un seul concept, vous pouvez écrire des multiples histoires, finalement, et comprendre qu'un domaine de recherche est toujours hanté par plusieurs langues, ou bien habité par plusieurs langues, si vous voulez, mais qu'un concept ne se fait jamais dans une seule langue, mais comporte toujours plusieurs. Un exemple qui m'est proche, c'est la médiathéorie, comme quelque chose, une théorie venant d'Allemagne qui n'a jamais trouvé un ancrage ici. Ce qui est étonnant parce que Friedrich Kittler, qui est l'auteur de cette théorie, s'est inspiré énormément des auteurs français. Et là, si on veut copier leurs notions, le dispositif, par exemple, l'agencement, et l'on a trouvé, bon, c'est devenu dispositif et anordnung, mais ce sont en principe, on reconnaît encore la trace française, l'origine, et les a transposés pour l'espace allemand. Et bon, c'est peut-être pas étonnant, mais en tout cas, toute cette théorie qui est venue après et qui a radicalement transformé le paysage scientifique en Allemagne n'a jamais trouvé le chemin de retour vers la France. Ça, c'est par exemple une histoire de contre-transfert manqué qui est intéressante à écrire, je pense. Voilà, note de bas de page. Il est vrai qu'il y a maintenant une maison d'édition en France qui s'appelle, que vous connaissez, les Presses du Réel, qui ont commencé à traduire Kittler. Ils ont traduit Gramophone Film Typewriter, qui est un très beau livre de Kittler qu'il faut absolument lire. Mais ce qui serait vraiment très intéressant comme objet de recherche, c'est son livre fondateur qui est Aufschreibesysteme, qui est traduit à l'anglais d'ailleurs. Bon, aux États-Unis, Media Studies, c'est quelque chose de très ancré. Et qui, en fait, mon hypothèse pour ce livre serait qu'en principe, ce livre est une traduction dans un sens à la fois large et restreint, si on veut, de les mots et les choses vers l'allemand. C'est-à-dire, quand même, il faut dire que les mots et les choses de Foucault sont complètement focalisés sur un espace francophone. C'est-à-dire, les exemples sont quand même français. Et en principe, Kittler a réécrit ce livre parfois avec les mêmes exemples pour un public ou dans un contexte ou, si vous voulez, pour raconter une histoire des ruptures épistémiques dans l'histoire des sciences en Allemagne. Et ça serait intéressant à se demander en quoi ça serait. Est-ce que c'est une traduction ou est-ce que c'est... Voilà. Et finalement, donc, ça rejoint ce point-là, la traduction comme pratique d'écriture. La traduction, évidemment, se joue entre différentes langues, mais il y a ici des traducteurs entre nous. Vous avez tous fait cette expérience que c'est surtout quelque chose qui se joue dans sa propre langue. Le rapport à l'autre langue change notre rapport à notre langue elle-même et opère des infimes décalages dans la manière d'écrire, dans la manière de penser, ce qu'on pensait qui est le sien, mais qui devient soudainement étrange. Et ce petit théâtre de l'écriture qui commence à se former par la traduction comme expérience de l'altérité serait une autre manière, vraiment pas seulement pour la littérature, mais pour les sciences humaines, pour comprendre en quoi cet éloignement, ce devenir étrange de l'objet de recherche, finalement, se place aussi dans la démarche scientifique, parce que finalement, et ça serait le pont pour l'avenir de la traduction, finalement, les sciences humaines ne sont rien d'autre que des textes, quelque chose d'écrit. Voilà, toujours fidèle à l'aléatoire de l'affiche, c'est Anne.
D'accord. Oui, donc Francesca, tu as proposé des nouvelles formes d'écriture hein, et des nouveaux espaces hein, pour la traduction. Donc, tu as présenté aussi le site d'Edalus hein, comme voilà, des sortes de laboratoires hein, pour inclure la traduction dans nos pratiques éditoriales. Donc, on a commencé à parler de numérique, de textes dématérialisés. Et moi, je voulais pointer donc, pour cette dernière question sur quel avenir pour les traductions en SHS et quel avenir pour les sciences humaines donc, par la traduction. Donc, c'est très large. Hein. Je voulais vraiment qu'on prenne la mesure des enjeux de l'édition dans l'ère numérique. Enfin, l'ère numérique est partout, hein, mais ça bouleverse l'édition. Je vous signale un petit livre, une synthèse récente dans la collection Repères qui s'appelle « L'édition à l'ère numérique ». Benoît Epron et Marcello Vitali Rosati, c'est donc plutôt des spécialistes de la communication. Mais c'est très bien, c'est très clair, avec pas mal de références. C'est dans les choses récentes publiées sur la question qui me semble voilà, très, très lisible et une excellente introduction. Donc, ce que l'ère numérique implique pour l'édition de savoir, c'est un bouleversement, à mon avis, absolument radical. Et on n'a pas encore fini d'en mesurer les effets. Et eux, ils pointent, enfin, ils expliquent bien un des phénomènes qui est d'abord la question de la transformation de l'accès à l'information. Hein. Accès à l'information et de la recherche d'information. Donc, bien sûr, on la pratique tous les jours. Mais on voit ce que ça donne peu à peu sur les ventes de livres, sur nos pratiques d'achat, etc. Bien sûr, du coup, sur les pratiques d'édition et d'édition des traductions. Donc, ça commence par vraiment ça. Comment on trouve l'information, hein, comment on la cherche, et donc comment on la cherche de plus en plus en ligne. Les livres sont dans une position assez spécifique. Ça implique aussi transformation de la lecture. Hein. Est-ce qu'on va continuer à lire des livres de 300 pages d'une façon continue ou pas? Est-ce qu'on va les lire de façon discontinue? Et les transformations de l'écriture en sciences humaines et sociales, qu'on n'a pas encore tout à fait pris en compte. Nous, on continue d'éditer des livres classiques, d'accord ? Ils font 300 pages, on estime qu'ils ont une introduction et une conclusion. Mais on les structure, aujourd'hui, on fait de l'édition numérique et on fait de l'édition structurée. Ça veut dire qu'on met en place dans des logiciels tout ce qu'il faut comme indicateur pour lire le livre d'une autre façon, c'est-à-dire notamment pouvoir sauter d'un thème à l'autre, pouvoir faire de la recherche plein texte, donc pouvoir lire ces textes d'une autre façon. Et bien sûr, toute la question du référencement des livres est bouleversée, en particulier quand on aura de plus en plus de livres numériques, donc on cherchera les livres en ligne. Et là, la question de la diffusion se déplace vers, non plus vers les éditeurs, mais vers les plateformes numériques. Et le pouvoir que sont en train de prendre les plateformes numériques est très important par rapport aux éditeurs. Et ça bon, voilà, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de légitimité, et ça provoque beaucoup de débats. Et on pensait qu'on était arrivé à des équilibres, et à chaque fois qu'on arrive à un nouvel équilibre, hop, on a un nouveau débat. Donc il y a eu l'enjeu sur les revues, hein, qui a duré un certain temps, les revues scientifiques. Aujourd'hui, elles sont presque toutes en ligne, avec un système de barrière mobile, mais qui est en train de changer, avec de plus en plus d'open access. Et aujourd'hui, la question des monographies se pose de plus en plus fortement. À la foire de Francfort en octobre, c'était vraiment le thème principal. Hein, les e-books, comment financer l'open access. Voilà. Ça ne veut pas du tout dire que le papier disparaît, mais pour un certain type de livre, qui est le livre de recherche, c'est sûr que de plus en plus, le livre numérique sera la référence essentielle, avec des bouleversements de l'écriture et de la lecture, qu'on ne mesure pas encore. Bon. Là-dedans, quelle est la place pour la traduction? Pour l'instant, c'est pas l'enjeu principal, ni des éditeurs, ni des chercheurs qui s'interrogent sur ces questions. Pourquoi ? Parce que la traduction est toujours pensée en termes de coûts supplémentaires, etc. Mais pourtant, elle est là, évidemment. Les pratiques numériques offrent effectivement des espaces nouveaux, notamment pour la traduction collaborative, hein, donc le fait de se mettre à plusieurs pour traduire, comparer les traductions. Il y a la Société européenne des auteurs qui avait commencé à faire ça, donc on va essayer de les inviter aussi pour parler dans cette soirée sur la valeur de la traduction. Et ils avaient, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'est une association qui bénéficiait d'un projet européen. Et il faisait travailler notamment des étudiants, des masters de traduction sur des traductions collectives. Donc ça va peut-être arriver avec des jeunes traducteurs, cette idée des traductions collaboratives. Et leur site permet ça, hein, avec des fonctions ouvertes, fermées, etc. Donc ça, également l'idée de mettre des sites compagnons des livres, donc des sites qui seraient des sites de discussion autour de la traduction. Donc on a eu plusieurs projets, y compris chez nous, où des auteurs sont arrivés avec cette ambition. On n'en a pas fait encore un seul, parce qu'en fait, on se retrouve dans des problèmes très concrets. Déjà, on a du mal à éditer le livre. Alors ensuite, quand il faut mettre en place le site, Déjà, notre site n'est pas du tout à jour. Donc, vous voyez, après, ça demande vraiment un investissement. Qui est prêt à faire cet investissement? Voilà. Pour l'instant, la recherche n'a peut-être pas encore pris toute la mesure de ce que ça va apporter. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a de nombreuses possibilités. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, en fait, ça va être peut-être financé quand cette question de la valeur de la traduction sera un peu plus, la valeur heuristique, épistémologique de la traduction, ce dont parlait Francisca, sera un peu plus, portée par les acteurs, pas seulement par des chercheurs spécialisés dans le domaine, mais aussi par l'institution de recherche, qui ne considère toujours pas la traduction comme une activité de recherche. Ça change, à mon avis, mais il faut être très vigilant parce que les transformations numériques, pour l'instant, n'ont pas mis cette question de la traduction au centre.
Oui, je trouve que beaucoup de choses ont été dites. Déjà, je voudrais peut-être juste faire une petite conclusion à partir de ce que j'ai dit, ce qui a été entendu. De ma perspective, l'avenir de la traduction en sciences humaines et sociales, et là je fais abstraction un peu des réalités un peu cruelles dessinées par Anne, ou même pas, peut-être pas, dépend en tout cas de l'idée qu'on se fait des sciences humaines et sociales. En fait, ça va ensemble. Pour moi, en tout cas, avec un certain optimisme, je pense que la traduction ou un investissement dans la traduction permet quelque part de penser les impensés des sciences humaines, ouvre à d'autres espaces, aux interstices qui ne sont pas encore ancrés dans l'espace du savoir, si on veut dire, même publié ou... Pour l'instant, je considère tout cela encore comme chance, comme possibilité d'ouvrir d'autres espaces, tout en sachant que ce n'est pas si simple que ça. Mais disons quand même que la traduction permet de penser les impensés des sciences humaines, déjà tout simplement par le fait qu'elle nous renvoie à la réalité des sciences humaines, qui est celle que les sciences humaines sont faites de langage, des faits de langage et faits de langage. Ce qu'on oublie, parfois on a tendance d'oublier, surtout avec le numérique peut-être, et de se devenir application aussi. Tout devient maintenant tangible, et visible et étrange. En tout cas, quand même, on a affaire au texte et au discursif. Et donc ce décalage entre les mots et les choses qu'il faut à chaque fois être renégocié, je pense que la traduction nous pousse vers cela. Et du coup, dans ce décalage entre... soudainement, on lit un texte et soudainement on découvre que c'est une traduction, que peut-être le texte original, ou même si on veut défaire ses oppositions, mais un autre texte est ailleurs. Et dès qu'on commence à creuser justement l'interstice entre les deux, quelque chose d'autre surgit. Et je pense que encore aujourd'hui, penser en sciences humaines qu'on ait un rapport à un texte et à un texte traduit et que peut-être ce n'est pas la parole originale de l'auteur, et que peut-être il y a encore autre chose, n'est pas tout à fait quelque chose de très ancré, aussi parce qu'il y a une tradition philosophique forte qui dissocie la pensée et son expression langagée. Et il y a cette idée quand même que les idées peuvent s'exprimer au-delà de la formulation. Vous voyez, il y a cette espèce de dissociation du langage des idées. Et je pense qu'aussi pour cela, il y a cette idée d'une hégémonie de l'anglais, ou c'est l'idée d'une lingua franca, si c'est le latin ou bien l'anglais, relève un peu de cet idéal, ou cette idée qu'il peut y avoir une pure pensée au-delà de son expression, on pourrait même dire du fait qu'elle soit un peu salie par la langue, vous voyez. Il n'y a pas la pensée pure, elle est toujours liée à une langue. Il y a cette très belle phrase de Hannah Arendt, que je ne trouve plus parce que je me suis éloignée, dans son Denktagebuch, dans son journal de pensée, où elle dit « D'où l'absurdité de la langue universelle. Contre la condition humaine, l'uniformisation artificielle et toute puissante de l'équivocité. » Et ça me semble très intéressant. En tout cas, j'aimerais bien que notre séminaire milite un peu en faveur de cette notion de l'équivocité, c'est-à-dire d'un glissement sémantique toujours à l'œuvre, même dans des textes scientifiques. Voilà, donc la traduction comme réservoir de nouveaux savoirs, comme une pensée à part entière peut-être, qui décloisonne les espaces de savoir et ouvre en cela à une véritable transdisciplinarité, si on veut utiliser ce mot un peu, dont on abuse un peu aujourd'hui. Voilà.
Attends, on change encore. Je crois que je n'ajouterai rien parce qu'il nous reste... Il nous reste un temps raisonnable pour le discuter et que je me retrouve tout à fait dans les propos de Francisca, je ne dirais pas mieux, mais on a vraiment en tout cas voulu souligner que je pense que l'importance de cette dimension pratique aboutit à une sorte de va-et-vient entre la question qu'est-ce qu'on traduit et qu'est-ce que traduire dans le fait que finalement c'est un peu comme le lien entre le véhicule et ce qui transporte, quoi. Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est transporté ou est-ce qu'on s'intéresse au transport lui-même? Et donc je pense qu'en mettant l'accent sur cette approche un peu pragmatiste qu'on a eue de manière elle-même non théorisée d'ailleurs, on s'est pas référé à des auteurs clés de la théorie du pragmatisme, mais cette approche qu'on a eue de faire du pragmatisme sans faire de référence à la théorie du pragmatisme relève de cet effort pour articuler les deux. Et que du coup, on peut voir effectivement la traduction comme un véhicule omniprésent dans l'ensemble des sciences humaines, finalement, avec cette plasticité métamorphique que visiblement la vision goethéenne que je disais tout à l'heure de la traduction aussi met en évidence. Donc bon, si on veut discuter, c'est vrai que le mieux est de vous donner la parole. Pour le petit quart d'heure qui nous reste.